France Culture.
À voix nue, épisode 5, combat d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Pour ce dernier épisode de nos À voix nue, je voudrais qu'on parle des relations que vous entretenez avec le politique, puisque vous alertez autant sur le dérèglement du climat que sur l'urgence à agir, et peut-être sur les combats qu'il reste à mener. J'ai comme l'intuition qu'ils restent nombreux. Pour commencer, dans ces relations entre science ou savant et politique, vous avez été conseillère municipale dans la petite commune où vous habitez dans l'Essonne. Jamais envie d'en faire plus?
En fait, à l'époque, il n'y avait pas assez de candidats. C'était une commune avec une liste unique. Et pour moi, ça m'a permis de prendre la mesure de la difficulté de ce rôle d'élu local. Ça m'a montré la capacité à faire avancer des choses de manière pragmatique, dans l'intérêt général. Et puis, il y a des choses à l'époque qu'on n'avait pas pu avancer, faire avancer, et qui avancent maintenant. Donc, il y a aussi ce temps, en fait, entre les intentions, les idées, et puis une forme de maturation qui se fait. Et ce qui était à un moment donné difficile, qui devient évident plus tard. C'est aussi, je pense, peut-être un apprentissage de la patience et des compromis qui font partie de la vie politique. Mais c'était pas au sens politicien, c'est-à-dire pas au sens membre d'un parti qui définit sa propre tactique par rapport aux autres partis politiques, ce qui est une autre facette qui m'est beaucoup plus étrangère.
Peut-être voir, pour vous, ça vous a permis de voir autrement comment on fait de la politique au quotidien ou comment les décisions sont prises.
Oui, et puis du coup, ça a construit pour moi un grand respect pour les personnes qui exercent ces fonctions. Pas facile.
En juin 2022, l'Élysée vous a proposé d'entrer au gouvernement. Vous avez décliné ?
Oui. Assez vite d'ailleurs, parce que c'est pas du tout quelque chose qui correspond à mes attentes. Quand on ne participe pas à l'élaboration d'un programme et qu'on est sollicité au fil de l'eau, ça veut dire en fait qu'on va devoir simplement gérer les affaires courantes sans nécessairement pouvoir disposer d'arbitrage et de moyens. Et ça, c'est la meilleure les conditions en fait qui pourraient pour moi conduire à être en désaccord entre ce que je serais amenée à faire et mes valeurs, donc impossible. J'ai une collègue en fait, un paléoclimatologue chilienne, qui a été ministre de l'Environnement. J'ai échangé avec elle à plusieurs reprises. Elle était auteure de rapports du GIEC. Mais par contre, elle avait participé à toute une réflexion sur la révision de la Constitution. Et donc du coup, elle avait été amenée à construire, partager finalement une vision, un projet. Et après, il y avait l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre certains de ces changements. C'était assez différent comme contexte.
Vous n'avez pas voulu entrer au gouvernement, mais cela ne veut pas dire, Valérie Masson-Delmotte, que vous avez refusé de participer d'une façon ou d'une autre. Et en particulier, puisque dans l'épisode 4, vous nous parliez de l'importance de la culture scientifique, je crois qu'à la rentrée 2022, vous êtes allé former le gouvernement aux enjeux climatiques. Est-ce que vous y avez constaté une vraie inculture scientifique ?
D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on m'a sollicité pour intervenir devant des élus, j'ai
vous
accepté
y êtes allé.
À tous les niveaux, à l'échelle d'élus locaux ou à l'échelle nationale ou européenne par exemple. À chaque fois, j'étais disponible pour partager l'état des connaissances scientifiques, répondre aux questions, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions, pour comprendre des aspects parfois techniques. C'était aussi le cas devant la Cour internationale de justice d'ailleurs. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est le fait que à cette occasion-là, c'était à la fin de l'été 2022. C'était en fait suite à des vagues de chaleur intenses, des sécheresses conduisant à des ruptures d'approvisionnement en eau, des incendies qui ont été très difficiles à contrôler, qui ont conduit à de nombreux déplacements de personnes. Il faut se souvenir de l'été 2022. Et donc, il y a eu en fait ce geste qui consistait, lors de la rentrée gouvernementale, d'intervenir pendant une vingtaine de minutes devant l'ensemble du gouvernement. Donc, j'ai mesuré en fait, quelque part, la chance que j'avais de pouvoir m'exprimer à ce niveau-là. J'ai aussi mesuré la dimension de communication qui est aussi présente. Il y a toujours en fait une forme d'instrumentalisation quand on se met en scène, interagissant avec des scientifiques, sachant qu'au fond, ce qui est nécessaire, c'est pas uniquement cela, mais c'est un travail de fond, c'est un travail où, au fur et à mesure des décisions, on construit des mécanismes d'interaction pour aller chercher les connaissances scientifiques qui peuvent nourrir une prise de décision fondée sur des bases factuelles ou avec un suivi rigoureux. Donc j'ai bien pris cette mesure-là. Les élus, les responsables politiques, ceux à qui on confie des ministères, ils reflètent la société dans toute sa diversité, mais avec un biais d'âge, et puis peut-être aussi un biais de privilège parfois. Et donc les ministres qui étaient en prise avec les sujets climat sont tout à fait au fait des connaissances scientifiques. Climat, mer, biodiversité, transition écologique, industrie et même économie. Par contre, sur les domaines plus régaliens, intérieur ou justice, moi j'ai vraiment pris la mesure d'un décalage énorme. Pourtant, on a des enjeux extrêmement importants de justice environnementale, par exemple. Le droit n'a de sens que s'il est mis en œuvre sur les sujets liés au changement climatique. Et puis, on voit bien qu'on a aussi des enjeux de maintien de l'ordre lorsqu'on a des événements extrêmes très graves d'intervention en cas d'urgence. J'ai vu aussi, en fait, ces différences de positionnement qui, finalement, éclairent encore plus par cette opportunité d'échange. Une des recommandations majeures du Haut Conseil pour le climat, dont je fais partie, qui était de s'assurer, en fait, d'une coordination interministérielle pour que les feuilles de route, les engagements de la France par rapport au changement climatique, aient une déclinaison dans tous les ministères. Et cela porte à la fois sur la capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un rôle important du pilotage public, l'articulation Europe nationale, l'articulation nationale régionale. Et puis, il y a également un rôle extrêmement important sur la gestion de risque, l'adaptation au changement climatique, où plus récemment, la révision des stratégies d'adaptation au changement climatique s'est appuyée sur les connaissances scientifiques, mais n'est pas encore déclinée, financée, mise en œuvre de manière opérationnelle. C'est-à-dire, on voit que on commence à peine à structurer la manière d'utiliser nos connaissances pour prendre des décisions aujourd'hui qui vont permettre d'être moins vulnérables demain.
Mais ça veut dire, vous, que vous intervenez presque d'un bout à l'autre de la chaîne, depuis la formation de personnel politique jusqu'à l'évaluation des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans le cadre du Haut Conseil pour le climat.
Oui, et puis d'ailleurs, il y avait eu des initiatives très importantes de formation, donc de hauts fonctionnaires, de formation généralisée, des cadres en fait, des personnels de la fonction publique sur les enjeux du changement climatique. Mais force est de constater que l'effort est arrêté maintenant. Les moyens alloués à ces efforts de formation ont été supprimés. Et ce qui est vraiment pour moi très regrettable, d'avoir des approches en fait intermittentes par rapport à ces enjeux structurants de long terme. On a besoin de compétences pour pouvoir accompagner les transformations de société. Et puis effectivement, dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, donc moi j'arrive, physicienne, climatologue, paléoclimatologue, travaillant dans des régions un peu reculées aussi comme thématique. Et puis j'observe, j'apprends ce qu'est en fait l'action publique, avec des collègues et un secrétariat du Haut Conseil pour le climat, beaucoup plus compétents sur ces aspects-là. Et puis parfois, c'est assez troublant de voir que les engagements, c'est juste une feuille de route dans un coin, mais qu'elle n'est pas associée aux moyens de sa mise en œuvre. D'où l'importance de ce type d'instance. Et ce qui est montré, c'est que tous les pays qui se sont dotés de comités scientifiques, de Haut Conseil pour le climat ou l'équivalent, ce sont des pays où il y a eu une amélioration de la qualité de l'action publique sur ces sujets-là par rapport à cette forme de redevabilité, de transparence, de suivi de l'efficacité et de recommandations, cette fois, pour permettre que l'action publique soit plus efficace. Le pays en fait où ça a été mis en œuvre en premier, c'est le Royaume-Uni, avec le Climate Change Committee, qui fait un travail remarquable, vraiment inspirant, mais beaucoup plus en prise, par exemple, avec le Parlement, parce que c'est la structure de la gouvernance britannique qui est beaucoup plus parlementaire. Ça fonctionne beaucoup moins bien en France, en fait. Les rapports du Haut Conseil pour le climat sont présentés dans les commissions spécialisées, aménagement, développement durable, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais on n'a pas eu, en fait, de saisine ou de sollicitation plus immédiate. Et j'ai l'impression que la relation science-société fonctionne moins bien. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un rôle de chief scientist au gouvernement, qui n'est pas le ministre de la Recherche, mais qui est quelqu'un qui est là pour aller chercher les connaissances, les compétences scientifiques ou en lien avec l'innovation technologique, en appui aux besoins du gouvernement, même chose dans les différents ministères.
Si ça existait, ça, vous accepteriez de le faire, par exemple ?
Je ne suis pas certaine d'être la bonne personne, mais en tout cas, le fait d'avoir une meilleure articulation entre les connaissances scientifiques qui sont produites et les besoins en appui à la prise de décision, c'est très important. Très important dans la formation à l'Institut national du service public, très important également donc de manière courante. Et une chose nouvelle qui a été mise en place en France, c'est l'équivalent régional, c'est-à-dire les groupes régionaux d'experts climat, grec, les hauts conseils pour le climat breton ou les GIEC régionaux comme en Normandie. Ils jouent un rôle extrêmement important en appui aux élus territoriaux Et les régions ont un rôle de chef de file de l'action pour le climat, mais cette fois-ci avec l'ancrage territorial qui est différent, beaucoup plus spécifique, par exemple, pour les enjeux d'adaptation. Et on voit vraiment là tout l'intérêt, pour moi, toute la pertinence de cette articulation. Mais par exemple, nos collègues du sud de la France sont en train de lever des fonds en faisant un appel à dons pour pouvoir poursuivre leur activité, ce qui est extrêmement préoccupant.
Revenons à vous avec vos engagements publics pour commencer. À côté du rôle de formation, du rôle d'évaluation, vous avez aussi pris des positions contre un certain grand projet, je pense à l'A69, soutenu lors d'une soirée en 2023, le mouvement des soulèvements de la Terre qui était menacé de dissolution. Je me souviens que dans l'épisode 4, vous disiez... Il reste une neutralité scientifique qui n'empêche absolument pas une forme de soutien, justement, de prise de position publique. Et en même temps, vous disiez, ça n'est pas du militantisme. Est-ce que là, quand même, quand vous assistez à une soirée de soutien d'un mouvement comme les soulèvements de la Terre, vous ne franchissez pas un pas supplémentaire?
Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Ça m'a amené à réfléchir de manière approfondie. Donc, je n'ai pas exprimé un soutien au soulèvement de la Terre dont je ne partage pas nécessairement les priorités ou les méthodes. Par contre, c'était en fait une expression de soutien à la liberté de contestation non violente. C'est exactement l'objet de mon discours, dont j'ai pesé chaque mot, chaque phrase. Je l'ai fait aussi relire à des collègues scientifiques pour m'assurer qu'il n'y avait pas de risque d'incompréhension. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que meilleure est la qualité de la vie démocratique, meilleure est l'efficacité de la protection de l'environnement. C'est ce qui est montré par tous les travaux en sciences politiques, en sciences sociales dans le monde. Qu'est-ce que c'est la qualité de la vie démocratique? C'est le pluralisme, c'est le rôle de la société civile, c'est les médias indépendants, et c'est la capacité de mobiliser l'ensemble de ces approches pour délibérer, par exemple, sur des grands projets, mais c'est aussi l'état de droit. Et ce que l'on voit, c'est que cet état de droit, sur les aspects liés au changement climatique, il est faible. Il est faible notamment parce qu'on a des grands projets qui ont été conçus, pensés, il y a des décennies, qui se retrouvent parfois en décalage avec les enjeux de transformation d'aujourd'hui, qui sont toujours portés. Et quand on regarde, par exemple, les résultats des enquêtes d'impact environnemental, on peut voir des effets négatifs ou le fait que les projets survendent leur intérêt économique. Et ça pose vraiment question sur les mécanismes d'évaluation publique de ce type de projet. Moi, j'invite les gens à lire les retours d'enquêtes environnementales, d'impact environnemental sur la 69, par exemple. Et quand on prend l'exemple d'autres contextes, eh bien, on peut voir que, par exemple, en Bretagne, on n'a pas construit des autoroutes qui détruisaient des terres agricoles. On avait une nationale, on a doublé la nationale, elle est publique, elle est gratuite, elle est à 110, pas à 130, et ça a résolu beaucoup de difficultés de sécurité, de contournement de communes, sans aller artificialiser toujours plus de terres. On voit bien que, par exemple, le code de l'environnement, en fait, il est décalé par rapport aux besoins d'adaptation, par rapport aux aspects biodiversité, ce qu'on en comprend aujourd'hui, ou par rapport aux aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Puisque vous parlez du décalage, et que c'est peut-être le mot-clé pour cet épisode, le décalage, parlons des politiques publiques telles qu'elles ont été faites et telles qu'elles se mesurent encore aujourd'hui. D'après les dernières études sur l'année 2024, dans leur ensemble, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Leur niveau de concentration dans l'atmosphère monte également. Nous sommes dans un monde où les températures ont augmenté en moyenne de 1,24 degrés Celsius par rapport à la période de référence 1850-1900. Sur ce 1,24 degrés Celsius, 1,22 est directement attribuable à l'activité humaine. La dernière décennie à elle seule a vu les températures monter de 0,27 degrés, ce qui est nettement plus rapide que la décennie précédente où l'on était sur une hausse de 0,2 environ. Les politiques mises en place depuis l'accord de Paris, Valérie Masson-Delmotte, ont-elles été complètement inefficaces? Et qu'est-ce qui sape la capacité à agir pour le climat au sein même de nos démocraties? Et je ne parle pas des États-Unis, on en a parlé dans l'épisode précédent, je parle de la France et de l'Europe.
Alors, si on reprend, donc on peut se dire, depuis les années 70 et l'alerte par rapport aux substances détruisant la couche d'ozone, il y a eu une réussite, et les composés contenant... notamment du fluor qui détruisait la couche d'ozone, ont été bannis. C'était des gaz à effet de serre dont les concentrations commencent à diminuer, les émissions ont fortement diminué, réussite. Ensuite, sur les derniers 10 ans, eh bien, on voit aussi la réussite de politiques de lutte contre la pollution, notamment les pollutions de particules, de soufre, ou d'émissions de soufre conduisant à la formation de particules, toxiques pour la santé. On comprend de plus en plus à quel point ces vraiment très dangereux pour la santé humaine. Et on voit que aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, ces politiques ont porté leurs fruits. Et il faut comprendre que ces particules, elles ont un effet parasol pour le climat. Elles renvoient le rayonnement solaire vers l'espace directement ou en formant certains nuages davantage. Et du coup, quand on les émet moins, on perd cet effet refroidissant. Ça contribue à réchauffer le climat. Et c'est pour cela que le rythme de réchauffement a été particulièrement élevé. Moins d'effets parasol et plus d'effets de serre, puisque les émissions des gaz à effet de serre ont continué à augmenter dans le monde, mais plus lentement qu'avant. Et si on regarde depuis l'accord de Paris, par rapport aux 15 ans précédents, ce qui est frappant, c'est de voir que dans les pays industrialisés dont les émissions avaient commencé à baisser, depuis l'accord de Paris, elles ont baissé plus rapidement. Et dans la plupart des pays émergents du G20, dont les émissions continuent à augmenter, elles ont augmenté beaucoup moins vite, et même en Chine, depuis 12 ans, elles commencent à diminuer.
J'aime bien votre façon de voir le verre à moitié plein.
C'est exactement ça. Donc on n'est plus sur une trajectoire vert très intensive dans le monde, en charbon par exemple. On n'est plus sur des trajectoires les plus probables vers 4 degrés de réchauffement en fin de siècle. C'est moins plausible aujourd'hui, simplement par les politiques publiques déjà mises en œuvre, efficacité, technologie propre, lutte contre la déforestation, qui ont porté des fruits partiels. Mais par contre, on n'est pas encore sur une trajectoire qui va permettre de tenir les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés ou proche d'un degré et demi, par rapport à l'escalade des risques, notamment dans les contextes les plus vulnérables. Là, en fait, on va atteindre un niveau de réchauffement d'un degré et demi d'ici les années 2030 à peu près. Donc on y va très vite. On sait qu'on va avoir une augmentation d'un certain nombre, une aggravation d'un certain nombre d'impacts. Ensuite, sur la trajectoire actuelle, s'il n'y a pas plus d'efforts, on dépasserait 2 degrés vers 2050 et on serait vers 3 degrés en fin de siècle dans le monde, c'est-à-dire 4 degrés en métropole, c'est-à-dire, par exemple, 10 fois plus de jours de vagues de chaleur de mi-mai à fin octobre, sur des durées parfois de canicules de plusieurs semaines, donc quelque chose de très différent de ce qu'on a connu à la fin du XXe siècle. Il faut bien le mesurer, c'est-à-dire là où on est maintenant, ça va exposer les jeunes générations nées aujourd'hui à une exposition disproportionnée par rapport à ma génération ou celle d'avant, aux extrêmes chauds, aux sécheresses agricoles, aux cyclones tropicaux les plus intenses, aux conditions propices aux feux de forêt ou aux pluies extrêmes. On va aussi les exposer à devoir faire face à la poursuite de l'accélération de la montée du niveau de la mer. Mais on peut agir davantage. C'est ça qui est intéressant.
À quelle échelle ? Parce que je posais la question de ce qui sape la capacité à agir pour le climat dans nos démocraties. La question de l'échelle est importante, c'est-à-dire est-ce que c'est nous, citoyens, les politiques, est-ce que c'est une échelle régionale, nationale, européenne, internationale ? Est-ce que ça a du sens d'agir individuellement ou est-ce que seul le collectif est important ?
C'est à tous les échelons, en fait. Bien sûr, il y a besoin de ce cadre, ce multilatéralisme climat. Donc actuellement, le gouvernement américain fait tout pour essayer de le saper, en fait, y compris avec les rétorsions commerciales, par exemple par rapport à une taxe carbone sur le transport maritime en ce moment. C'est également la crédibilité, par exemple, de l'Union européenne qui a été leader sur les aspects climat, qui a réduit ses émissions quasiment de 30% depuis les années 90, qui a un engagement vers la neutralité carbone, et là qui tergiverse sur son objectif 2035, qui n'aborde pas explicitement, frontalement, l'objectif très important 2040, où finalement, pour être crédible, il faudrait avoir une baisse d'environ 90% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2040. Ça veut dire en fait décarboner l'industrie lourde, on est à cette échelle-là. Et on voit qu'en ce moment, y a des tergiversations. Avant la COP30, l'Union européenne n'a pas encore mis sur la table sa révision de sa contribution déterminée nationalement. Mais par exemple, la Chine, pour la première fois, a affiché un objectif de baisse de l'ordre de 7 à 10% de ses émissions par rapport à son pic en 2035. C'est la seule décision vraiment marquante, avec son leadership sur les technologies propres et sa diplomatie sud-sud, en fait, pour finalement faire fonctionner ses usines, créer son activité économique en fournissant aux pays en développement des technologies décarbonées.
Justement, la décarbonation de l'économie, c'est un des combats des années 2025-2030
En fait, les conditions clés, qu'est-ce que c'est ? C'est produire de l'électricité décarbonée à un prix abordable, nucléaire, renouvelable, par exemple. C'est en fait utiliser cette électricité décarbonée pour décarboner les processus industriels, le chauffage, par exemple avec des pompes à chaleur. C'est utiliser cette électricité décarbonée pour se substituer au pétrole dans les transports, avec par exemple batterie et électrification des véhicules, qui font partie des leviers d'action. Et c'est pour ça que je parle de technologies qui sont là, qui sont abordables, avec l'enjeu de les rendre abordables pour ceux qui ont des revenus contraints, c'est-à-dire dans un esprit de transition juste, c'est une condition clé de l'adhésion. On voit bien que si on veut juste taxer les énergies fossiles,
c'est là que le bât blesse.
Ça va créer des révoltes.
On a vu une victoire de la Cour internationale de justice le 23 juillet 2025 qui a conclu que les États qui violent leurs obligations climatiques commettent un acte illicite qui pourrait se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés. Est-ce que là, pour vous, c'est une avancée en termes de justice climatique?
Oui, j'avais été auditionnée par les juges de la Cour internationale de justice avec 6 autres scientifiques impliqués dans les travaux du GIEC pour répondre à des questions techniques, notamment sur la capacité à attribuer à un État sa responsabilité dans le réchauffement actuel ou à venir, sur la capacité à faire le lien entre des émissions, un niveau de réchauffement, des caractéristiques régionales, l'aggravation d'impact et de risques. Et c'est finalement cette science qu'on appelle la science de l'attribution qui étaye la justice climatique au sens de la capacité à relier des causes et des conséquences via en fait l'effet sur le climat. Cet avis de la Cour internationale de justice, son histoire est intéressante parce que parfois certains font de leur vulnérabilité une force. Et ce sont des jeunes étudiants en droit de petits états, de petites îles du Pacifique, très vulnérables à tous les aspects liés au changement climatique, par exemple la baisse du potentiel de pêche tropicale, la dégradation des récifs de coraux. Ils ont réussi à faire porter par certains états de ces petites îles, devant l'Assemblée générale de l'ONU, cette idée de saisir la Cour internationale de justice sur les obligations des états et leurs responsabilités. C'est l'Assemblée générale de l'ONU qui a fait cette demande. Il y a eu énormément d'auditions qui sont passionnantes à écouter. Et l'avis, en fait, qui a été rendu des juges, il est extrêmement profond. Il souligne les obligations des États qui ne sont pas uniquement liées à l'accord de Paris, mais qui sont liées à ce qu'ils appellent le droit coutumier, c'est-à-dire, notamment dans chaque État, le lien avec la protection des droits humains fondamentaux. Et c'est ce lien qui est souligné dans l'avis, c'est-à-dire ne pas agir par rapport au changement climatique, c'est menacer la jouissance des droits humains fondamentaux, le droit à la santé, le droit à l'accès à l'eau, à l'alimentation pour certains pays. Et puis, les droits humains liés aux écosystèmes, leur dégradation, sapant les services dont on dispose, et donc sapant aussi les conditions de vie. Je pense que c'est cela qui est particulièrement remarquable. Et effectivement, l'avis des juges est important. Ils considèrent que la référence à 1,5 degré réitéré dans les négociations climat doit être la référence. Et ensuite, ils affirment que ne pas tenir les engagements qui ont été affirmés est un acte illicite qui pourra justifier des demandes de réparation par ceux qui en souffrent. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que le Conseil d'État avait jugé, saisi par notre affaire à tous, et puis certaines communes, par rapport à l'obligation finalement de l'État français de tenir ses engagements climat. Et le Conseil d'État fait un suivi de ces contentieux. Et c'est pour cela que l'état des lieux par rapport aux émissions de gaz à effet de serre en France est important. Et si on regarde en fait historiquement, le premier budget carbone que la France s'était donné n'a pas été tenu. Le deuxième a été revu à la baisse. Il va être tenu tout juste parce qu'il y a eu les confinements et le ralentissement, par exemple, des transports, et parce que on stocke du carbone dans du bois mort, ce qui n'est pas extrêmement satisfaisant. Donc on voit que c'est compliqué, et c'est même encore plus préoccupant sur les dernières années, parce qu'autant le rythme de baisse des émissions sur l'année 2022-2023, plus de 5%, il nous mettait sur des bons rails, autant ça s'est ralenti. 2023-2024, de l'ordre de 2%. 2025, peut-être 1% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est un échec. Et pour moi, en fait, comme citoyenne, c'est presque une honte.
Mais pour autant, vous ne baissez pas les bras. Vous dites qu'il est toujours important d'agir et à toutes les échelles, on l'a bien entendu. Est-ce que vous êtes parfois prise d'éco-anxiété ou de solastalgie, Valérie Masson-Delmotte?
Alors, j'ai en fait le sentiment de perte, comme une perte d'un être cher, quand en fait je vois des milieux naturels, des paysages auxquels je tiens, qui se dégradent et qu'on ne pourra pas retrouver comme je les avais connus. Par exemple, la dégradation de forêts, les dépérissements de forêts. Certaines essences de forêts, des hêtres par exemple, ou des épicéas en montagne, ne trouvent plus en fait les conditions climatiques favorables aujourd'hui, ne les trouveront pas demain, et donc vont être amenées à être remplacées par d'autres espèces. J'ai aussi ça quand je vois des zones humides desséchées, silencieuses. Pas le bruit d'insectes, pas le bruit des oiseaux. Ça me frappe comme une perte, en fait. Et même chose, en fait, sur de l'érosion, par exemple, de certaines plages. C'est le sentiment de perte irréversible, ce qu'on appelle le chagrin environnemental. Par contre, l'éco-anxiété, comme la plupart des gens le décrivent, c'est-à-dire, c'est une forme d'empathie. C'est vraiment une empathie avec les générations à venir, les autres, dans les contextes les plus vulnérables, sans être touché soi directement. Moi, je ressens pas de l'anxiété sur ce sujet-là, je ressens de l'empathie. C'est quelque chose qui nourrit ma détermination à mieux agir. Et je mesure vraiment très directement, ne serait-ce qu'en faisant les suivis d'impact pour le Haut Conseil pour le Climat, toute l'ampleur des difficultés, des souffrances induites par le changement climatique. Je les regarde lucidement. Je suis très sensible au risque d'aggravation des inégalités ou de perte de cohésion sociale si on laisse tomber les plus fragiles, les territoires les plus fragiles, face au changement climatique. Mais pour moi, c'est quelque chose qui nourrit ma détermination.
Comment vous arrivez dans ce maelstrom d'émotions dans lequel vous êtes, à rester déterminé, à dépasser le chagrin dont vous parlez, parfois la colère devant l'indifférence, le déni ou même pire, avancer droit. Qu'est-ce qui, dans votre vie de tous les jours, vous fait continuer à avancer, Valérie Masson?
En fait, la forme de colère froide, c'est le carburant le plus durable, hein, il faut le dire. La colère froide devant l'obstruction, les attaques sur la science, le cynisme ou l'indifférence. Mais au final, ce qui permet de tenir pour moi, à part mes pratiques personnelles du vélo qui me permet de respirer et de fréquenter des paysages intéressants, même en banlieue parisienne, c'est la prise de conscience de très profonde dans la société, de très nombreux acteurs qu'on rend parfois invisibles, de l'enjeu, de toutes les initiatives que je vois à différentes échelles pour porter des transformations dans des acteurs qui travaillent dans le secteur des entreprises, des administrations publiques, de la société civile, des ONG. Je vois qu'il y a ce mouvement de fond qui est présent et qu'on essaye d'étouffer. Et ça fait partie de ces tentatives d'obstruction. Et peut-être pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ne sous-estimez pas le nombre de gens qui sont en phase avec vous. Il est extrêmement large.
En 2013, vous avez reçu le prix Irène Joliot-Curie dans la catégorie femme scientifique de l'année. On a assez peu parlé finalement du fait d'être femme scientifique, mais c'était quand même au fil de certains de nos épisodes. Vous avez participé à un livre collectif paru en 2025 également, Les filles sont parfaites pour les sciences. Ça aussi, c'est un combat pour aujourd'hui et pour demain.
Oui, c'est un point très important. En fait, pour relever les enjeux, les défis par rapport aux transformations, pour limiter l'ampleur du changement climatique ou pour y faire face, c'est un aspect parmi beaucoup d'autres, hein, mais pour améliorer la vie des gens, on a besoin de science, on a besoin de technologie, on a besoin de les utiliser en appui aux besoins de la société. Et c'est affreux de voir que, encore aujourd'hui, il y a tout un ensemble de biais inconscients qui font que les petites filles, les jeunes filles, ne se dirigent pas vers les parcours scientifiques alors qu'elles en ont tout à fait les compétences, les talents et qu'on a besoin d'elles. Donc du coup, c'est important de donner à voir, notamment dans ce travail qui a été fait, des exemples de jeunes femmes scientifiques inspirantes qui travaillent dans des domaines très différents, qui sont épanouies, qui aiment leur travail. Et le donner à voir, ça permet de surmonter un certain nombre de biais où, par exemple, quand on parle de scientifiques, on va surtout montrer des exemples d'hommes historiquement.
En vous écoutant, au moins, je pense que beaucoup de vocations seront suscitées. Un grand merci, Valérie Masson-Delmotte, pour ces 5 entretiens. Et je tiens aussi à remercier Cédric Duroux, qui a permis que ces entretiens se fassent.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était À Voix Nue avec Valérie Masson-Delmotte, réalisation Félix Levaché, prise de son Thomas Robin, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.